Têtu était le seul mensuel, enfin le seul magazine même français, qui consacrait tous les mois 5, 6, voire plus de pages, des enquêtes à travers des fiches pratiques. Voilà. Enfin, j'ai lancé l'idée de créer l'agenda de Têtu. Donc c'était un cahier spécial qui traitait de l'actualité dans les régions. Donc j'avais constitué une équipe de correspondants et de correspondantes en région, dans les grandes villes françaises. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, donc on est en 2000, les correspondants et les correspondantes m'envoyaient leurs papiers par courrier. Ils n'avaient pas tous encore accès au Internet ou au mail, et ils m'envoyaient leurs photos par la poste. Têtu, c'était à la fois effectivement un magazine que certains voyaient comme un peu comme ça sur papier glacé, avec des beaux mecs sexy, etc. Mais si vous regardez le contenu de Têtu, c'était quand même très très riche. Moi, j'étais quand même très très heureux qu'on puisse proposer toute cette information sur le VIH-SIDA.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette et vous écoutez le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Nous recevons aujourd'hui un journaliste, entrepreneur et militant. Il a été président de l'association contre le VIH Act Up Paris et il est actuellement président de l'association Paris sans SIDA depuis 2023. Il a également réalisé des documentaires sur la crise du SIDA et publié en 1993 un livre de témoignages sur les militants de la lutte contre le VIH, les combattants du SIDA. Depuis 2015, il accompagne des demandeuses et demandeurs d'asile LGBT à l'ARDIS, association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans, à l'immigration et au séjour. Il dit que ses engagements ont façonné son activité professionnelle. En parallèle de son militantisme, il a été journaliste, d'abord à France 3 dans les années 80, puis au sein du magazine d'information et de culture queer Têtu, avant de s'investir dans la création de plusieurs médias LGBT, notamment Committed, créé en 2018. Il vient tout juste de prendre sa retraite à 65 ans, et à cette occasion, nous avions envie de revenir sur son parcours dense et d'échanger avec lui sur l'évolution du militantisme et des médias LGBT ces 40 dernières années. Christophe Martet, bonjour.
Bonjour Juliette.
J'aimerais d'abord revenir sur la dimension militante de votre biographie. Donc votre première expérience, c'est ACT UP au début des années 90. Pourquoi ACT UP et qu'est-ce que vous retirez aujourd'hui de cet engagement ?
Alors, je dirais que c'est même bien avant, puisqu'en fait, dès la fin des années 70, tout début des années 80, alors je ne suis pas investi vraiment dans les associations, mais je participe aux premières marches, alors à l'époque on disait marches homosexuelles et lesbiennes, ou des gays, des lesbiennes, donc je suis investi quand même pas mal là-dedans, en étant visible, et aussi en participant aux marches, bon, qui était l'événement alors, à Paris, en particulier celle de 1981, hein, qui a réuni 10 000 gays et lesbiennes dans les rues de Paris, et qui était vraiment marquante parce que c'était un peu un tournant, puisque quelques mois après, la gauche au pouvoir dépénalise en tout cas l'homosexualité, supprime ces articles infamants qui avaient été mis en place par le régime de Vichy et qui faisaient une différenciation finalement entre les homos d'un côté et les hétéros de l'autre. Et d'ailleurs, récemment, l'Assemblée nationale, après le Sénat, a voté pour reconnaître cette faute, finalement, du gouvernement et pour indemniser les victimes de cette répression, puisqu'il y a eu répression jusqu'en 81.
Et donc, pourquoi ACT UP à ce moment-là, c'était l'association qui agissait le plus.
Donc voilà, pour revenir effectivement à votre question initiale, moi, en 85, je fais le test du VIH dès qu'il est disponible. Il est positif, mais pendant quelques années, bon, on n'en parle pas trop, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas beaucoup d'informations. Et c'est vrai que c'est à partir du moment, à la fin des années 80, où j'ai vu autour de moi vraiment beaucoup de gens mourir et que moi-même, mon état de santé se dégradait, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Je pars à New York dans une forme de congé sabbatique de France 2, la chaîne de télé qui m'employait à l'époque, pendant presque un an. Et c'est là où je découvre ACT UP New York. Et donc, je m'investis dans ACT UP New York, dans le groupe média d'ACT UP New York, d'abord. Et puis, en revenant en France, ben, naturellement, je rejoins ACT UP Paris. pour m'investir à fond parce que j'ai perdu mes meilleurs amis, parce que je comprends que cette crise du sida, elle est liée aussi à des discriminations et en particulier au fait que le gouvernement ou les pouvoirs publics en général n'ont pas pris en compte cette épidémie parce qu'elle touche des populations discriminées, parfois invisibilisées. Je pense en particulier aux usagers de drogue, je pense en particulier aux travailleurs et travailleuses du sexe. Bon, on parlait aussi, bien sûr, à l'époque déjà des migrants. On disait immigrés, mais enfin, bon, c'est la population migrante. Et aussi parce qu'elle touche les homos, les hommes gays, les bi en particulier. Et que c'est aussi pour cette raison que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de l'importance de cette épidémie et pris les mesures qu'il convenait de prendre pour y mettre fin.
Et donc, dans une interview de Libération publiée le 20 août 2017, vous dites que parmi vos meilleurs amis, rares sont ceux qui ne sont pas passés à un moment ou à un autre à ACT UP et que votre entourage est très relié à cette histoire. Je suppose que c'est toujours le cas aujourd'hui.
Oui, en fait, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'en fait, même si, y compris au sein d'ACT UP, il y a pu avoir des désaccords, il y a pu avoir des engueulades, il y a pu avoir des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord ou on avait des différences de vues stratégiques ou politiques, peut-être pas, mais en tout cas stratégiques. Très clairement, on a une espèce de lien un peu invisible entre nous et fréquemment, je croise des personnes, des anciens ou anciennes militantes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Et voilà, tout de suite, le courant passe, même si on ne s'est pas vus depuis longtemps, parce qu'il y avait cette forme, on disait souvent à ACT UP qu'on avait comme ça créé une communauté finalement. C'était un embryon de communauté LGBT, alors gay et lesbienne à l'époque, on disait plutôt gay et lesbienne que LGBT, mais en tout cas voilà, c'était quand même un espace de discussion, de débat, un espace vraiment politique au sens le plus noble du terme, si je puis dire, parce que tous les mardis soirs, on se retrouvait, alors parfois on était 100, parfois on était 200, parfois on était 150, les années un peu plus proches de nous, quand l'association a un petit peu décliné, entre guillemets, mais il y avait cette idée quand même d'aller vers l'efficacité, d'aller vers aussi la reconnaissance des aspects politiques de cette épidémie et de faire en sorte qu'effectivement ces prises de parole, ces prises de position soient toujours accompagnées de quelque chose d'utile. C'est-à-dire que l'idée à ACT UP, c'était que chacun venait avec sa colère, avec ses problèmes, avec ses, quelque chose qui le bloquait d'une certaine façon, une forme de désespoir aussi, parce que comme je vous disais, quand vous avez perdu beaucoup d'amis, vous êtes dans une forme de désespoir, parfois de solitude aussi, de ne pas pouvoir parler de votre séropositivité par exemple. Et là, vous vous retrouvez dans un espace où les choses vont être possibles. Et le groupe va vous porter, en fait. C'est comme ça que moi, je voyais les choses. Le groupe vous portait. C'est-à-dire le fait d'être dans un groupe, dans une association, dans un collectif, dans une communauté en plus, où le fait d'être gay, lesbienne, bi, trans, le fait d'être d'une minorité ou d'un groupe minoritaire, une personne racisée... vous pouviez exprimer ce que vous aviez à dire et vous vous sentiez finalement dans une forme de safe place, comme on dirait aujourd'hui, pour pouvoir exprimer les choses. Alors, c'est vrai qu'ACT UP attendait beaucoup de ses membres, c'est-à-dire qu'il fallait être quand même très actif pour s'intégrer et pour faire partie de cette espèce d'énergie qui était parfois même... à la fois créatrice et réconfortante, si je puis dire, mais aussi parfois très demandeuse. C'est-à-dire que il fallait vraiment assurer, si je puis dire. On avait tout de suite envie de s'investir, et notamment parce qu'il y avait cette idée d'action publique, de mettre son corps en avant, en jeu, de vraiment être dans la rue, parce que c'est aussi, ça correspondait aussi à une période où la visibilité gay, lesbienne, la visibilité des personnes LGBT passait aussi par ça, passait par des revendications, passait par des actions dans la rue, se montrer, montrer qui on était, ne pas avoir honte, montrer les visages des personnes séropo, mais aussi qui disaient je suis pédé, je suis fier. Et je suis séropo et je suis fier. Enfin il y avait cette idée aussi de revendication. J'ai vécu 14 ans avec ACT UP, entre guillemets, entre 90 et 2004. C'était une énorme partie de ma vie.
Et donc là, depuis presque 10 ans, vous êtes engagée à l'ARDIS. Est-ce que vous retrouvez ces idées de collectif, d'action politique, de safe place dans cette association, ou c'est vraiment des modes d'action qui sont vraiment différents ?
Oui, c'est très différent parce que l'ARDIS, c'est alors au départ une association qui, bien sûr, a des revendications pour faire en sorte que les personnes exilées, enfin les personnes étrangères qui viennent en France, puissent obtenir des papiers beaucoup plus facilement, puissent obtenir une protection au titre du statut de réfugié. Et bon, on voit bien que malheureusement, aujourd'hui, les choses ont plutôt tendance à se dégrader, voire on est quand même là avec la dernière loi asile-immigration, on a eu droit à une déferlante de racisme vraiment et de xénophobie et d'attaques contre les étrangers où on a tout mélangé, où c'était vraiment très très dur à supporter de tous ces débats. Mais l'ARDIS, c'est plus une association d'accompagnement des personnes pour faire en sorte que dans un cadre d'une association LGBT, ces personnes-là puissent se sentir effectivement, alors dans un safe place très clairement, mais c'est aussi un endroit où évidemment, les demandeurs et demandeuses d'asile, par exemple, bah, ils et elles viennent avec des demandes très précises. Et là, il faut les accompagner dans une démarche, comme je disais, bienveillante, très, très respectueuse. Le rapport de force est très différent dans la mesure où on voit bien que les forces conservatrices et racistes, elles sont quand même beaucoup plus audibles et beaucoup plus aujourd'hui fortes. Et donc le combat de l'ARDIS, il est compliqué. Alors à l'époque, bien sûr qu'il y avait beaucoup d'hostilité à l'égard de d'ACT-UP, hein, il y avait, mais y compris même d'ailleurs des freins au sein de la communauté LGBT, hein, qui n'était pas toujours d'accord avec ni nos méthodes, ni ce qu'on disait, ni comment on exprimait les choses, etc. à ACT-UP. Mais c'est vrai que globalement, on a pu montrer que ce qu'on proposait, ce qu'on disait, et le fait de dire, par exemple, ben voilà, les malades du sida sont experts et expertes de leur maladie. Les femmes doivent être incluses dans les recherches parce que pour l'instant, elles ne le sont pas. Les personnes migrantes, elles ont aussi des droits. Et notamment, il faut, ce sur quoi je me suis beaucoup battu, leur reconnaître un droit au séjour pour soins, qui d'ailleurs aujourd'hui malheureusement est remis en cause. Voilà, il y a un certain nombre de revendications d'ACT-UP qui ont été satisfaites. Malheureusement, si on prend le cas de l'ARDIS, on voit qu'au contraire, la situation des étrangers est de plus en plus dure en France.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Votre carrière militante ne peut pas être totalement séparée de votre carrière journalistique. Vous êtes entrée à France 3 en 1983 et c'était un an avant les premiers cas de VIH-Sida. Est-ce aussi par réaction au traitement médiatique réservé à l'épidémie que vous êtes engagée dans la lutte contre le VIH ?
Clairement, quand on est journaliste, on essaye de bien appréhender le sujet qu'on va traiter. On essaye de voir tous les différents angles. On essaye d'avoir aussi du contradictoire, c'est-à-dire de se dire, de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, ce que soit les scientifiques disent, soit les chercheurs ou les pouvoirs publics justement disent. Et c'est vrai qu'au tout début, même moi sur un plan individuel, clairement, j'avais peut-être pas complètement conscience de la gravité de l'épidémie parce que en 85, les chercheurs, les médecins, les pouvoirs publics disaient « Oh, regardez, on a déjà identifié le VIH très rapidement, on a désormais un test. Très bientôt, je me rappelle, à l'horizon de 5 ans, en gros, on disait « On aura trouvé un vaccin. » Donc, quelque part, je me disais « Bon, et quand j'ai vu que les gens commençaient à mourir autour de moi, je me suis dit « Non, mais là, c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. » Et c'est je pense pas pour rien qu'effectivement ACT-UP, il y a pas mal de journalistes qui étaient militants à ACT-UP parce que on a eu envie justement de briser aussi ce silence, de briser cette chape de plomb et au moyen justement des médias et de faire en sorte que les médias qui finalement permettent à l'opinion publique ou en tout cas au public d'être informé, que ces médias soient titillés, sollicités par nous, par ACT-UP, à travers des actions médiatiques au sens où c'était des actions où on pouvait faire des photos, où il y avait des voilà, il y avait de quoi montrer, si je puis dire, parce que c'est toujours compliqué de parler d'une maladie qui en plus est à l'époque assez tabou. Une fois que vous avez montré un hôpital, là avec ACT UP, on montrait des choses concrètes, c'est-à-dire des personnes malades, infectées par le VIH séropositive, des personnes malades, qui étaient dans la rue, qui manifestaient, qui hurlaient leur colère. Et donc les médias, ça les a effectivement intéressés tout de suite. Et moi, c'est vrai que je voulais mettre à profit mes années de journalisme, aussi par rapport justement au livre que j'ai pu écrire, Les combattants du sida, parce que pour moi, c'était de donner la parole à des gens qu'on n'entendait pas à l'époque, que ce soit des malades, des experts, des personnes concernées ou aussi des personnes qui accompagnaient les personnes malades du sida ou séropositives.
Et donc, pour briser ce silence, vous avez été à l'origine de la création de plusieurs médias LGBT. Vous avez d'abord rejoint Tétu en 1999, puis vous avez créé YAG en 2008 avec trois collègues de Tétu. Et enfin, Comitid en 2018. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Tétu et ensuite peut-être nous parler de ce qui vous a poussé à créer tous ces médias LGBT ?
Alors, Tétu, ce qui est intéressant, c'est que j'y suis rentré pour, au départ, remplacer Didier Lestrade, donc un des fondateurs d'ACT UP et aussi un des fondateurs de Tétu, Didier Lestrade, qui à l'époque, donc en 99, préparait un livre sur ACT UP, ACT UP, une histoire, qui a d'ailleurs été republié, réédité. Il y a quelques temps. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier travail pour Tétu, c'était de traduire un article d'un magazine américain sur le bareback. Donc le bareback, qui était ce phénomène, alors on parle de 1999, qui était ce phénomène où des personnes, en particulier, enfin surtout des personnes séropositives, disait qu'elle donc baisait sans capote en fait, voilà, qu'elle n'utilisait plus le préservatif dans la mesure où elle considérait que en tant que personne séropositive ayant des rapports sexuels avec des personnes séropositives, elle ne risquait pas de toute façon d'infecter ces personnes. Bon, et après le bareback s'est étendu au-delà de la sphère des personnes séropositives. Bref, cet article, je l'ai traduit et ensuite, on m'a proposé justement de remplacer Didier Lestrade pour m'occuper des pages Tétu Plus. Donc, c'est vrai que Tétu était le seul magazine, même français, qui consacrait tous les mois 5, 6, voire plus de pages à la question du VIH-SIDA. Alors, c'était à travers des témoignages, à travers des articles, des enquêtes, à travers des fiches pratiques. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré à Tétu. Ensuite, j'ai lancé l'idée avec Thomas Doustali à l'époque de créer Tétu Plus, qui était un guide gratuit d'information sur le VIH, diffusé à 200 000 exemplaires, si je me souviens bien, et avec un financement original, puisque c'était à la fois les pouvoirs publics et les labos pharmaceutiques qui nous soutenaient, dans la mesure où on proposait aussi, ce qui n'était pas fait à l'époque, des fiches pratiques pour les combinaisons de traitements, puisqu'on sait qu'à partir de 1996, on est sur ce qu'on appelait les trithérapies, mais parfois c'était plus, ça pouvait être 3, 4, 5, voire plus. J'en ai pris jusqu'à 7 ou 8 traitements différents pour combattre le VIH. Et donc, Tétu Plus, c'était aussi une très grosse partie de mon travail. Et ensuite, j'ai un petit peu bifurqué, tout en m'occupant encore de Tétu Plus, en créant l'agenda de Tétu. Donc, c'était un cahier spécial encarté dans Tétu et qui traitait de l'actualité dans les régions. Et donc j'avais constitué un petit pool comme ça d'une équipe de correspondants et de correspondantes en région, dans les grandes villes françaises. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, donc on est en 2000, les correspondants et les correspondantes m'envoyaient leurs papiers par courrier. Ils n'avaient pas tous encore accès au Internet ou au mail et ils m'envoyaient leurs photos par la poste. Enfin, leurs papiers et leurs photos par la poste, voilà, et qu'il fallait retranscrire, etc. Parce que voilà, c'était une autre époque. On n'était encore pas du tout à l'époque, à l'ère du mail et d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Donc, Tétu, c'était à la fois effectivement un magazine que certains voyaient comme un peu comme ça sur papier glacé, avec des beaux mecs sexy, etc. Mais si vous regardez le contenu de Tétu, c'était quand même très, très riche, avec un grand nombre de différentes rubriques. Et notamment, moi, j'étais quand même très, très heureux qu'on puisse proposer toute cette information sur le VIH-SIDA.
Et donc ensuite, YAG, qu'est-ce qui vous a poussé à créer des nouveaux médias LGBT? Peut-être que YAG n'est pas connu de tous nos auditeurs et auditrices. Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire.
Bah, YAG.com, en fait, c'est partie d'une discussion que j'ai eue avec Xavier Hérault, alors qu'il avait travaillé avec moi à Tétu, et qui est journaliste, et qui lui avait quitté Tétu un peu avant nous. Donc moi, j'ai quitté Tétu en 2007. Et c'était au moment où explosaient les médias type Rue 89, Mediapart, donc les médias, ce qu'on disait un peu les médias participatifs, hein, avec des commentaires, avec des blogs, avec tout ça. Et j'ai dit à Xavier, bah, moi, à l'époque, j'avais 47, 48 ans. J'ai dit, tu sais, ça va être difficile pour moi de retrouver un boulot comme journaliste parce que je suis quand même assez étiqueté, entre guillemets, avec le fait d'avoir travaillé pendant 7-8 ans à Tétu, le fait d'avoir l'âge que j'ai, ça va peut-être être compliqué. Et puis ça m'excitait quand même pas mal de proposer justement un média nouveau sur Internet, un pure player, comme on disait, c'est-à-dire vraiment un média sur Internet, avec cette idée justement de commentaires, parce que je pense que l'expérience militante que j'avais eue me poussait à me dire, mais finalement... Un média, il ne faut pas que ce soit juste un truc un peu descendant comme ça, entre le média d'un côté et puis les gens qui vous lisent. Non, il faut qu'il y ait comme ça une forme d'interaction. Et donc très vite, Xavier m'a apporté aussi cette idée de communauté, la communauté YAG, avec un réseau social. Hein. Alors bien sûr, pas la Facebook, mais c'était quand même assez intéressant. Et puis aussi, on a ajouté la brique blog, où les gens ont pu, alors que ce soit des gens connus ou moins connus de la communauté, ont pu créer comme ça leur blog. Ça pouvait être sur la BD LGBT, ça pouvait être sur le cinéma, ça pouvait être Caroline Mécari, avocate, qui avait son blog, ou d'autres voilà, qui avaient des blogs un peu plus spécifiques. Mais à chaque fois, on essayait comme ça d'être à l'écoute et d'être en éveil sur ce qu'était la communauté aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que YAG.com, on parle d'un média qui a duré 8 ans, qui a accompagné vraiment aussi beaucoup de transformations, parce qu'au début, on parlait surtout gay et lesbien. Après, on était vraiment sur une diversité avec les questions trans, avec les questions aussi justement liées aux migrations. Et surtout, YAG, il y avait cet apport très important, parce que ça, c'était mon aussi ce que j'avais fait pendant longtemps, c'est-à-dire le journalisme audiovisuel. Donc, on avait d'emblée mis en place quand même une politique où on produisait beaucoup de vidéos. Hein, YAG, bon, la bibliothèque de YAG, c'est aujourd'hui 800 vidéos, enfin, c'est beaucoup. Et on voit aussi à travers justement toutes ces vidéos l'évolution de la société entre 2008, où on est... au tout début des années Sarkozy, où finalement on voit que, y compris les politiques, prennent en compte, commencent à prendre en compte cette question LGBT, et y compris la droite, même d'ailleurs, améliore le PACS, hein, rajoute des choses au PACS. Et puis jusqu'en 2012, où là on voit qu'il y a effectivement une vraie cassure entre. La droite qui veut juste un PACS amélioré et même qui refuse finalement d'aller vers le mariage. Donc c'est vrai qu'on a, et avec ce qu'on sait aussi des manifestations homophobes, LGBT-phobes et de vraiment cette déchaînement de haine LGBT-phobe en 2012-2013 au moment de la loi. Donc c'est vrai qu'on a accompagné tout ça, toute cette évolution, et YAG avait quand même une vraie aura et un vrai poids dans le paysage médiatique de l'époque, parce qu'on était vraiment le premier média LGBT pure player, et avec cette idée quand même d'essayer de gagner de l'argent, ou en tout cas de faire en sorte d'être indépendant. Et bon, et malheureusement, on a pris le tournant, si je puis dire, de l'abonnement, puisque au début, on pensait que c'était avec la publicité qu'on allait pouvoir faire vivre le site. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les tarifs publicitaires se sont effondrés. Et donc, on est parti après sur un modèle d'abonnement où finalement, la communauté nous suivait. Mais bon, c'était un peu trop tard. Et il y a un moment, voilà, il faut dire stop, parce que humainement, c'est difficile. Financièrement, c'était intenable. Et donc, il y a un moment, on a dû cesser l'activité, hein, liquider, comme on dit, l'entreprise, en fait. Voilà. Mais franchement, YAG, ça a été en plus pour beaucoup de gens, pour beaucoup de journalistes, un tremplin, hein, des journalistes LGBT, après, qui ont pu accéder à d'autres médias. Et ça, je suis vraiment content de ça. Parce que moi, c'était déjà une période différente de ma vie où j'avais aussi envie de transmettre auprès de ces personnes. personnes qui étaient parfois, qui avaient fait un stage et puis qui étaient restées un peu plus longtemps avec nous et qui après ont rejoint d'autres médias. Et voilà, on était aussi très à l'écoute, comme je dis, des réseaux sociaux, mais aussi de la communauté qui elle-même, la communauté YAG, les YAGueurs et les YAGueuses, d'ailleurs ils s'étaient appelés comme ça, ont eux-mêmes créé des événements, des apéros, il y avait les sorties ciné. Enfin voilà, c'était assez intéressant comme modèle et clairement, ça a quand même changé la donne pour beaucoup de gens, je pense.
Et vous avez été ensuite directeur de publication et rédacteur en chef de Comitide à partir de 2018. Mm-hmm. C'est un média qui avait vocation à couvrir l'actualité LGBT en France et dans le monde et qui a aussi lancé les carrières de plusieurs journalistes queer, notamment Maëlle Lecor ou notre collègue Olga Auguste.
C'est l'entreprise Connexion, hein, qui est une société éditrice de médias et de sites web, qui avait lancé ce média parce qu'il se trouve que l'actionnaire principal de Connexion avait investi dans YAG. Et donc, la disparition de YAG, c'était un peu difficile. Et donc, il y avait cette idée qu'il fallait recréer un média queer, LGBT, qui reflète vraiment la diversité de plus en plus importante de la communauté à travers voilà, un média pure player et un média assez militant, finalement. Moi, je préfère dire engagé. C'est-à-dire que je suis un journaliste engagé. Parce que militant, c'est un peu autre chose. Vous êtes militant d'une association, d'un parti politique. Moi, je tiens quand même à dire que, voilà, en tant que journaliste, on a même parfois eu des petits soucis, des frictions, y compris dans la communauté, parce que parfois, on se dit, ah bah tiens, Christophe, il est gay, donc il doit être un peu le porte-voix de la communauté. C'était pas ça le but. Le but, c'était bien sûr d'être à l'écoute et de considérer qu'en tant que journaliste engagé, je pense être quand même plus à même de comprendre les enjeux, le pourquoi du comment, de suivre l'actualité, d'être plus respectueux aussi justement des diversités et de l'évolution, d'être plus à l'écoute, mais surtout d'être plus en phase finalement avec ces évolutions, de continuer à les suivre. Mais ça ne veut pas dire qu'on était, encore une fois, les porte-parole ou ça c'était plus le rôle des associations, ou qu'on n'était pas là pour faire un plaidoyer. Donc voilà, c'est chacun un petit peu, chacune dans son rôle, mais en tout cas, un média engagé, c'est un média qui, comme je disais, quoi, essaye aussi de faire avancer les choses pour que, y compris les autres médias, inscrivent ces questions-là aussi à leur agenda. C'est lié aussi au fait, et là, il faut le saluer, de la création de l'association des journalistes LGBT. Parce que de la JL, parce que clairement, ça a fait que pas mal de journalistes ont pu, au sein de leur rédaction, faire valoir aussi ces sujets-là, ce qui n'était pas donné d'avance. Hein. Si on pense à Alice Coffin, qui fait partie des premières à créer justement la JL, me racontait que au sein de la rédaction dans laquelle elle était, c'était très difficile de faire passer des sujets sur les personnes LGBTQIA+.
Et pour revenir un petit peu sur le financement, donc YAG et Comitide fonctionnaient grâce aux abonnements des lectrices. Est-ce que vous diriez que c'est un pari risqué? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de rendre viable un média LGBT?
Parce que déjà, effectivement, on n'est pas si nombreux et si nombreuses que ça. Donc déjà, ce n'est pas facile pour les médias généralistes traditionnels de vivre. On voit bien que la plupart, si on ne peut pas se comparer du tout, même si, j'aime le dire, YAG comme Comitide était reconnu comme site IPG, c'est-à-dire d'information politique et générale, et c'est très important. Ça paraît peut-être juste un truc comme ça, pas majeur, mais pour moi, c'est très important de dire on informe vraiment le public sur des sujets qui sont d'intérêt public et d'intérêt, enfin, que tous les citoyens et citoyennes doivent connaître. Les sujets LGBT, c'est pas cantonné à une communauté, c'est pas cantonné à voilà. Non, c'est d'intérêt général. Et ça, c'est important de le dire. Mais ce qui est compliqué, c'est que le public LGBTQIA+ est quand même une cible si on veut parler de façon un peu plus corporate, entre guillemets, ou financière, on n'est pas super nombreux. Et puis aussi parce que l'influence des réseaux sociaux, le fait qu'il existe aussi des médias peut-être plus militants, enfin des sources d'information, fait que c'est pas facile de fidéliser et de faire en sorte que les gens payent, même si YAG c'était 4 € et quelques par mois. Aussi le fait que c'était des médias indépendants, alors qu'on voit aujourd'hui que les médias qui sont viables, c'est parce qu'ils font partie d'un groupe. Et souvent aussi, il faut quand même le souligner, les médias sont très soutenus, enfin en tout cas sont aidés financièrement par les pouvoirs publics. Et ça fait partie aussi du rôle des pouvoirs publics que d'aider la presse, parce que justement c'est important qu'un pays ait une presse diverse. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui malheureusement on prête un peu qu'aux riches. YAG, on était très peu soutenus par les pouvoirs publics quand Le Monde, L'Express ou d'autres avaient des aides très importantes. Et c'est vrai que ça aussi, ça n'aide pas. À l'époque de YAG, on a aussi dû faire face à, clairement, de l'homophobie de la part des décideurs, de la part des gens qui considéraient que ce n'était pas un média sérieux.
Et donc, par rapport à ces difficultés, comment est-ce que vous voyez l'avenir des médias LGBT? Par exemple, on pense à Néon, qui est désormais un média LGBT détenu par un milliardaire, Vincent Bolloré, qui détient aussi la chaîne de télévision d'extrême droite CNews. Comment est-ce qu'on peut considérer cette évolution? Et est-ce que malgré toutes ces difficultés, vous êtes quand même optimiste quant à l'évolution du traitement médiatique des questions queer ?
Alors moi, je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste. Je pense qu'il faut voir les choses effectivement un peu froidement. Clairement, Néon par Bolloré, vous dites, là, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Enfin, en tout cas, c'est assez inquiétant. Après, évidemment, on voit bien qu'il y a beaucoup de gays et de lesbiennes, peut-être un peu moins, mais en tout cas de gays au Rassemblement National, donc c'est pas très, très étonnant. Il y a aussi des gays d'extrême droite, des lesbiennes d'extrême droite, mais l'avenir des médias LGBT, il n'y en a plus beaucoup en fait, donc ça c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Et je pense que ce qui est difficile, c'est ça, c'est de rester indépendant. Parce que YAG, on l'a créé. Alors bien sûr, après, on était dans une optique d'entreprise. On a créé une entreprise et qui dit entreprise dit actionnaire. On aurait peut-être fait autrement aujourd'hui, parce qu'il y a des façons de créer une entreprise et de se regrouper qui peuvent être différentes, qui peuvent être moins capitalistiques entre guillemets, même si on n'était pas, on ne peut pas dire que YAG était un groupe capitaliste, mais voilà, le fait d'avoir des actionnaires, clairement, ça posait un certain nombre de problèmes. Ce qui est quand même encourageant, c'est comme je le disais, ces questions, les sujets LGBTQIA+, ont largement dépassé justement les médias LGBTQIA+. Et ça, c'est bien, parce que c'est important que des journalistes qui, par ailleurs, peuvent traiter d'autres sujets ou qui ne sont pas forcément eux-mêmes ou elles-mêmes LGBTQIA+, puissent traiter de ces sujets. Et en particulier, je pense notamment à toutes les questions internationales. Et à la situation internationale des personnes LGBTQIA+. Parce que ça, on a besoin justement de la puissance de certains médias. Je vois même l'AFP. L'AFP, l'Agence France Presse, à l'époque, au tout début de YAG, Judith Silberfeld, donc, était celle qui suivait au maximum l'actualité internationale. Elle le faisait déjà pour Tétu, elle le faisait pour YAG, et notamment dans sa revue de web, où elle faisait vraiment un travail super de veille et d'analyse de la presse sur le web, la presse internationale. On s'était dit, tiens, peut-être qu'on pourrait prendre un abonnement à l'AFP, ça nous permettrait d'avoir justement ces nouvelles internationales. Mais à l'époque, très franchement, c'était pas du tout au point, ça n'allait pas, c'était maltraité, les termes n'étaient pas forcément bien employés. Aujourd'hui, là, on avait un abonnement depuis quelques temps à l'AFP avec Comitit, parce que j'étais un peu tout seul, où on n'était pas très nombreux pour traiter de l'actualité. De fait, ça s'est beaucoup amélioré. L'AFP propose des sujets d'angle, propose des sujets à l'international sur les questions LGBT qui sont beaucoup plus fouillés qu'il y a quelques années. Donc ça, pour moi, je trouve ça très positif, parce qu'encore une fois, c'est pour beaucoup de lecteurs et de lectrices, s'abonner à un magazine ou s'abonner à une revue sur le net, c'est pas évident financièrement. Donc que le fait que France 2 ou tel ou tel média en ligne puisse proposer des sujets hors abonnement voilà, à ses lecteurs et à ses lectrices, ben, je trouve ça très bien. En revanche, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas moyen de faire, voilà, d'avoir cette viabilité pour un média LGBT digne de ce nom, quoi.
Donc l'idéal, ce serait peut-être une sorte d'alliance entre des médias généralistes qui s'emparent de ces questions et quand même des médias LGBT qui seraient divers et visibles.
Oui, il faudrait trouver, ou alors effectivement un modèle un peu hybride, entre guillemets, d'un média peut-être sous forme, je ne sais pas, de coopérative, où on pourrait penser à ça, qui ferait qu'on pourrait quand même avoir accès à l'information. Mais il ne faut pas se leurrer, l'information, elle a un coût. Et être journaliste, ça veut dire, ben voilà, ça veut dire être salarié, par exemple, et pas être payé en facture. Donc ça, c'est... À YAG, on le disait souvent aux gens, on se disait, mais attendez, vous pensez que YAG, nous, on publie tous ces articles comme ça, juste pour la beauté du geste? Ben non, on est salariés, alors on n'était pas à des salaires de dingue, hein, mais au contraire, mais voilà, on avait une équipe de salariés, et bien ça, forcément, ça veut dire aussi qu'on a une déontologie, qu'on a une façon de travailler qui nécessite des moyens, et que ça se paye, et que si c'est pas le lecteur qui paye, bah, il faut trouver d'autres moyens. Et on voit bien que la publicité, c'est plus du tout une source viable de revenus pour les médias, en fait. Et l'indépendance, je pense, elle est justement liée au fait d'avoir un nombre d'abonnés important. On voit l'exemple de Mediapart qui est quand même super, parce que de fait ça marche bien, ils ont quand même des revenus, ils font des bénéfices, qui voilà, et avec une rédaction qui est très importante.
Merci beaucoup Christophe Martet d'être venu parler avec nous, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez retrouver toutes les références que nous avons évoquées sur le site de Radio Campus Paris à la page du Lobby. Je vous encourage également à aller écouter l'émission que nous avons réalisée à l'occasion des 30 ans du SIDAction, où nous dressons un état des lieux de l'épidémie aujourd'hui et revenons sur les traitements disponibles, mais également sur l'avancée de la recherche en libre accès elle aussi sur toutes les applications de podcast. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là vous pouvez nous suivre sur Instagram @lelobby RCP, à bientôt.